Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Quelle politique d'immigration pour la France après l'Assemblée nationale la semaine dernière? Une déclaration du gouvernement avant un débat sans vote aura lieu ce mardi au Sénat. Notre invité sera le président de la CIMADE, Henri Masson. Une adolescente palestinienne a été tuée lors d'un raid de l'armée israélienne. C'est arrivé à Jenin, en Cisjordanie occupée. Une attaque d'un hôtel à Kaboul, en Afghanistan, a fait plusieurs victimes aujourd'hui. Une exécution publique en Iran, un homme condamné en lien avec les manifestations qui secouent le pays depuis près de 3 mois. Il y a 17 ans, l'assassinat du journaliste et député de Beyrouth, Gebran Tweni, lors d'un attentat à la voiture piégée dans la capitale libanaise. Nous écouterons Ronda Takieddine, journaliste libanaise basée en France. Il est soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lockerbie en Écosse. Le Libyen Abu Aguila Mohamed Massoud a été placé en détention aux États-Unis. La fin ce lundi du procès de l'attentat de Nice, après plus de 3 mois d'audience, l'attaque au camion Bélier le 14 juillet 2016 a fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Et cette rencontre historique, mercredi, la demi-finale France-Maroc lors du mondial de football au Qatar. Le futur projet de loi sur l'immigration fera l'objet d'un débat ce mardi au Sénat, une déclaration du gouvernement avant un débat sans vote. La première ministre a dévoilé mardi dernier à l'Assemblée nationale les grandes lignes de ce texte. Elisabeth Borne estime que l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible, pas plus réaliste que ne l'est une immigration dérégulée. La première ministre qui souhaite allier fermeté et humanité entretient avec Henri Masson, président de la CIMADE, une association nationale qui vient en aide aux migrants.
Je pense que c'est relativement à tort, en tous les cas pour le deuxième terme qui est l'humanité. Je voudrais d'abord souligner qu'il avait été prévu par Madame la Première Ministre une période de concertation avec les associations. Nous avons observé et nous avons participé personnellement à 2 tables rondes de la CIMADE qui réunissaient d'autres opérateurs dans ce secteur, ce que nous ne sommes pas. Et en fait, ce n'ont pas été des séances de concertation partenariale, comme cela a été indiqué dans la lettre que le ministre de l'Intérieur nous avait adressée pour lancer cette opération. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça d'autant plus dommage que, allez, 48 heures avant la première table ronde, Monsieur Darmanin avait signé une circulaire à destination des préfets, rendant encore plus dramatique et sévère l'attribution d'obligation de quitter le territoire français pour les étrangers. Et que, pour le coup, cela aurait pu être, par exemple, un sujet de discussion au cours de ces tables rondes, et bien entendu, ça ne l'a pas été. Alors, qu'en est-il du projet de loi dont seules les grandes lignes sont effectivement présentées? Or, le diable, comme on dit, se cache dans les détails. Donc, il va falloir être très attentif et très prudent. Et très clairement, se posent déjà quelques questions. La première, c'est que c'est le énième, voire le 20e projet de loi depuis une quinzaine d'années environ.
Et le dernier date de 2018.
Voilà, et le dernier, comme vous l'indiquez, date de 2018. Je rappelle d'ailleurs que lorsque le projet de loi de 2018 avait été présenté au Conseil d'État, le Conseil avait fait remarquer que oui, il y avait des choses qui étaient pas mal, mais que quand même il s'inquiétait du fait que l'on proposa un nouveau texte de loi au vote du Parlement, alors même que l'on n'avait pas étudié les conséquences des précédents textes de loi. Et je pense que le Conseil d'État, n'est-ce pas, aura assez de mémoire pour faire le même type de remarques.
Concernant les grandes orientations de ce projet, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre regard sur cela et notamment le fait que l'immigration de travail soit favorisée et que ce projet de loi a pour ambition de mieux intégrer et de mieux expulser, selon les mots employés par le ministre de l'Intérieur.
Mieux expulser, ça c'est tout à fait évident, puisque effectivement dans ce projet tel qu'il nous est présenté en l'état, hein, l'objectif est de multiplier les obligations de quitter le territoire français, effectivement. Or, l'un des critères qui est regardé en particulier par la droite et l'extrême droite, c'est le principe d'exécution de ces obligations de quitter le territoire français. Or, cet indicateur, c'est en fait un rapport entre un numérateur et un dénominateur. Le numérateur, c'est le nombre d'expulsions. Le dénominateur, c'est le nombre d'OQTF. Plus vous augmentez le nombre d'OQTF, sachant qu'il y a des contraintes qui ne dépendent pas du gouvernement, qui dépendent en particulier des pays qui doivent accorder des certificats de passage, eh bien, plus vous augmentez le nombre d'obligations de quitter du territoire français et plus vous diminuez le taux de réalisation effectivement de ces OQTF. Et du même coup, je dirais que le gouvernement est en train de monter une machine qui lui offre un piège dans lequel il risque de tomber s'il n'y prend pas garde. Et la deuxième remarque que l'on peut faire, c'est que effectivement, le droit de toute personne qui arrive sur le territoire français doit être totalement respecté. Et qu'en particulier, toute personne a le droit de faire effectivement des recours contre des décisions administratives et que les règles du droit s'appliquent totalement et effectivement. Nous sommes très inquiets en particulier sur le fait que la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui est l'instance de recours lorsque un asile est refusé à quelqu'un, nous sommes très inquiets par le fait que la CNDA devait être délocalisée. Très inquiets parce qu'il y a des problèmes d'interprétariat. Et donc il va falloir trouver des interprètes partout où il y aura des antennes dans les régions et les départements. Très inquiets parce que les personnes, les experts qui connaissent les situations précises dans lesquelles se trouvent les pays d'où proviennent les personnes qui demandent l'asile, ces experts, il n'y en a pas des quantités énormes et qu'il n'y en aura pas dans chaque région ou dans chaque département. Donc, ce sera extrêmement nécessaire d'être prudent et être attentif. Et d'ailleurs, je crois savoir que même des membres de la CNDA sont très soucieux de défendre l'unité du travail qui est fait par cette Cour. Donc, il y en aurait bien d'autres sujets, effectivement, de préoccupation. Moi, je pense que la chose la principale, c'est effectivement d'attendre au début du mois de janvier le dépôt de ce projet, d'examiner précisément toutes les mesures qui seront proposées et d'ici là, d'attirer l'attention des parlementaires, membres de l'Assemblée nationale, députés et aussi sénateurs pour leur montrer les risques de certaines des décisions qui pourraient leur être proposées. En ce qui concerne le thème que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'intégration par le travail, je serais tenté de dire que ça fait longtemps que nous savons tous que beaucoup d'activités qui aujourd'hui ne sont pas remplies par des Français autochtones parce qu'ils ne veulent plus aller dans ces métiers sont remplies par des personnes sans papier, que l'État lui-même est un employeur de personnes sans papier. Et qu'en conséquence de quoi, il est grand temps de régulariser ces personnes. Mais là encore, attention à ce que nous appelons une immigration choisie, qui nous permettrait effectivement de retenir des personnes dont nous avons besoin, alors dans la restauration, dans la santé, éventuellement dans l'éducation, dans l'accompagnement des personnes âgées et des enfants, et de laisser de côté toute une série de personnes d'une part et donc de les renvoyer chez elles, ou bien de pomper dans des pays qui en ont besoin des personnes dont nous aurions besoin, dans une forme d'immigration choisie, qui ne permet pas à ce moment-là aux pays dont ils sont originaires, effectivement, de pouvoir se développer comme cela est nécessaire. C'est donc une très grande transformation du point de vue du rôle de l'immigration dans notre pays et de la vocation de ces migrations à faire évoluer le monde, puisque en particulier la France est un pays d'immigration, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, son histoire a été aussi construite par des personnes étrangères. C'est donc un nouveau regard que nous allons éviter pendant ces quelques semaines, voire quelques mois de la présentation du projet de loi jusqu'au vote. Nous allons inviter les députés et les sénateurs, effectivement, à imaginer avec nous d'autres conceptions de la manière dont nous devons accueillir les personnes étrangères dans notre pays. C'est un immense chantier. Vous n'avez pas besoin de le souligner, nous en sommes bien convaincus.
Le président de la CIMAD, Henri Masson. Une adolescente palestinienne a été tuée lors d'un raid de l'armée israélienne. Cela s'est passé à Jenin, en Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère palestinien de la Santé qui indique que la jeune fille, âgée de 16 ans, a été touchée d'une balle dans la tête lors des affrontements qui ont éclaté au cours du raid. Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, l'adolescente se trouvait sur le toit de sa maison lors de l'incursion de l'armée israélienne. Une exécution publique en Iran. Un homme condamné en lien avec les manifestations qui secouent le pays depuis près de 3 mois. Il a été condamné à mort par un tribunal de la ville de Machad dans le nord-est pour avoir tué 2 membres des forces de sécurité. La France, par la voix du Quai d'Orsay, condamne avec la plus grande fermeté cette exécution publique. Il s'agit de la 2e exécution liée à la contestation après la pendaison jeudi d'un homme de 23 ans, reconnu coupable d'avoir attaqué et blessé un paramilitaire. Une attaque s'est produite ce lundi après-midi en Afghanistan. Des hommes armés ont ouvert le feu dans un hôtel du centre de Kaboul. Une explosion a été entendue. Il y a plusieurs victimes. C'était il y a 17 ans l'assassinat du journaliste et député de Beyrouth, Gebran Tweni, lors d'un attentat à la voiture piégée dans la capitale libanaise. Un assassinat le 12 décembre 2005. Le 14 mars 2005, Gebran Tweni prononçait son serment dans lequel il appelait tous les Libanais, musulmans et chrétiens, à rester unis pour l'éternité. Nous y revenons avec la journaliste franco-libanaise Randa Takieddine.
C'était le contexte de l'emprise syrienne sur le Liban et l'emprise de Bachar al-Assad. Et tous ceux qui appelaient à la liberté, à l'indépendance, à en finir avec ce joug syrien sur le pays, avaient été assassinés. C'est une série d'assassinats et c'était Gebran Tweni, le journaliste Samir Kassir, tous ceux qui appelaient à la souveraineté, à la liberté, à l'indépendance. C'était cette époque-là.
Gebran Tweni qui avait lancé un appel le 14 mars 2005, un appel à l'unité.
C'est ça. Il avait appelé à l'unité des chrétiens et des musulmans pour libérer le pays, pour s'unifier. En fait, c'est la tragédie de l'attentat contre Gebran Tweni, contre Samir Kassir, contre Rafi Hariri, tous ceux qui ont lutté contre le joug syrien et qui ont été assassinés par le régime syrien. Aujourd'hui, leur serment est franchement failli par ce qui se passe dans le pays. Le pays est complètement divisé. Il est encore sous le joug iranien et du Hezbollah. Beaucoup de partis politiques n'ont rien appris de ces assassinats et de ce que le pays a sacrifié comme jeunesse, comme liberté, comme esprit libre et esprit volontaire, comme Samir Kassir, comme Gebran Tweni, comme beaucoup d'autres journalistes qui ont été dans le monde assassinés pour la liberté de la parole et de l'écrit.
Vous nous dites que c'est un serment qui reste d'actualité aujourd'hui.
Il reste d'actualité seulement et il est trahi. Il est trahi parce que personne ne le respecte, parce que le pays est très divisé, il est confessionnalisé. C'est tout ce qu'il avait appelé, lui, il avait appelé à l'unité entre chrétiens et musulmans. Alors aujourd'hui, le pays est très divisé.
Quelles ont été les suites judiciaires suite à cet attentat?
Je pense que comme le dit Maurice Gourdon-Montagne dans son livre, le tribunal international pour Rafik Hariri n'a pas été au bout de ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas jugé le régime d'Assad, qui est responsable en grande partie de ce crime et de ces crimes, de ces nombreux crimes. Et en fait, il est resté à des individus qui appartiennent au Hezbollah sans vraiment aller jusqu'au bout du commanditaire.
Randa Takieddine, journaliste franco-libanaise basée à Paris. Il est soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lockerbie en Écosse. Le Libyen Abu Aguila Mohamed Massoud a été placé en détention aux États-Unis. Cet attentat en décembre 1988 avait provoqué la mort de 270 personnes. Deux dirigeants du groupe terroriste Daesh ont été tués dans un raid des forces américaines dans l'est de la Syrie. C'est ce qu'indique le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'opération a été menée en coopération avec des membres des forces démocratiques syriennes. Le président russe et son homologue turc ont discuté des approvisionnements en céréales et d'un projet gazier régional. Recep Tayyip Erdogan a salué le passage de plus de 13 millions de tonnes de céréales par ce corridor depuis août dernier. Il a proposé de l'utiliser pour exporter d'autres produits alimentaires et matières premières. Une proposition aussi évoquée lors d'un appel entre le président turc et son homologue ukrainien. La fin ce lundi du procès de l'attentat de Nice. Après plus de 3 mois d'audience, il s'est achevé avec les derniers mots des accusés avant que la cour d'assises spéciale de Paris ne se retire pour délibérer. La cour qui rendra son verdict ce mardi dans la salle des grands procès du palais de justice. L'attentat le 14 juillet 2016 a fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Une affiche exceptionnelle ce mercredi à 20h. Il s'agit bien sûr de la demi-finale France-Maroc lors du mondial de football. Le Maroc, qui est devenu samedi le premier pays africain et le premier pays arabe à atteindre ce stade lors d'une Coupe du Monde. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Kader Chiban, conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional, conseiller municipal de Saint-Denis. Une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.